d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, tension en Côte d'Ivoire alors que le pays attend la proclamation des résultats des élections locales.
Pourquoi tout cela? Eh bien parce que la Côte d'Ivoire est toujours un peu dans cette atmosphère surchauffée qui avait prévalu en 2010-2011 et qui a conduit à la guerre post-électorale.
26 morts au Mali suite à un chavirement samedi de deux pirogues dans le centre du pays. Au Burkina, la première pierre du mémorial Thomas Sankara a été posée à Ouagadougou.
Le monument en hommage à Thomas Sankara est symbolisé tout simplement par une statue géante de 5 mètres en ronde bosse.
Donald Trump s'est entretenu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite sur la disparition de Jamal Khashoggi. Le secrétaire d'État Mike Pompeo est attendu à Riyad. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales ont été marquées par de nombreux incidents violents et ont fait au moins 4 morts. Des troubles ont eu lieu autour des résultats contestés par la coalition au pouvoir et le PDCI. Le candidat à la mairie du Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, a reconnu sa défaite pour mettre fin au climat de tension qui a régné tout le week-end. Eric Manirakiza.
Le duel pour prendre la mairie de la commune la plus riche du pays était un des affrontements les plus médiatiques de ces municipales. Fabrice Sawagno, spécialiste de la communication ayant orchestré les campagnes de plusieurs chefs d'État africains, était soutenu par la coalition du président Alassane Ouattara et opposé aux députés de la circonscription, membre du PDCI, qui a claqué la porte de la coalition gouvernementale il y a 2 mois. L'annonce des résultats au plateau a donné lieu à un imbroglio. Samedi soir, une fois le dépouillement terminé, la commission électorale du plateau n'a pas procédé à la compilation des voix en raison de l'absence mystérieuse de ses deux présidents. Après une nuit de tension, les urnes ont été transférées dimanche à la commission électorale indépendante départementale. En début d'après-midi, la CEI, sans proclamer de résultats, avait semblé donner la victoire à M. Sawagno, malgré les protestations des représentants de son rival. Dimanche soir, la dispersion d'une marche de plusieurs centaines de personnes a donné lieu à des échauffourées.
La Gambie a lancé une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime de Yahya Jammeh, plus de 20 mois après son départ en exil. Nous faisons le point avec Lionel Gaïma.
Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation ont prêté serment lors d'une cérémonie en présence du président Adama Barrow et du ministre de la Justice Aboubakar Tambadou. Elle est présidée par Lamine Cissé, un ancien diplomate des Nations Unies, et comprend 4 femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Sossé. Instituée par une loi en décembre 2017, cette commission dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, dans 2 ans, recommander des poursuites ou des réparations. Ces audiences publiques doivent commencer dans les prochaines semaines. Le juriste américain Reed Brody dit espérer que ce sera le premier pas pour que Yahya Jammeh et ses sbires rendent compte de leurs actes. Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, s'est fait réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à M. Barrow. Depuis sa chute, l'ancien président gambien vit en exil en Guinée équatoriale.
Les élections législatives au Mali, prévues en novembre-décembre, ont été de nouveau reportées, cette fois à 2019, sur décision de la Cour constitutionnelle, prolongeant de 6 mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale. Mali toujours, les autorités ont annoncé le bilan du naufrage samedi de 2 pirogues au niveau d'Arnassé, dans la région de Tombouctou. Sur les 48 passagers, 26 personnes sont décédées. Les victimes sont des cultivateurs qui se rendaient dans leurs champs en pirogue en profitant de la crue en cette saison des pluies. La Croix-Rouge a appelé hier le Nigeria à obtenir la libération de 2 agents de santé enlevés dans le nord-est du pays. Boko Haram menace de les tuer à l'expiration d'un délai non précisé. Nanit Talani.
La rapidité et l'urgence sont essentielles. Dans moins de 24 heures, c'est une date limite susceptible d'entraîner le meurtre d'un autre travailleur de la santé, a indiqué le CICR dans un communiqué, sans donner plus de précisions sur l'ultimatum ni les conditions. L'organisation plaide la clémence et exhorte le gouvernement d'Abuja à intervenir en faveur de Hawa Mohamed Limam, sage-femme du CICR, et Alice Lokcha, infirmière de l'UNICEF, enlevée en mars dans la ville de Rann, avec Saifoura Hussaini Ahmed Korsa, une autre sage-femme assassinée le mois dernier. Dans une vidéo, la faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique a menacé de tuer les deux agents humanitaires si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Le CICR a appelé les ravisseurs à ne pas tuer les deux agents de santé qui ne faisaient rien d'autre que venir en aide aux communautés. Le groupe djihadiste armé détient également Léa Charibou, une écolière âgée de 15 ans, enlevée en février à Dapchi.
Suite à l'épidémie Ebola en RDC, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence à Genève le 17 octobre. Cette 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Manjinma, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Selon les statistiques actualisées de l'OMS, le total des cas signalés s'élève à 211, dont 135 morts. Et puis toujours, RDC toujours, le pays a affirmé qu'elle menait des investigations sur l'expulsion massive de quelques 200 000 Congolais d'Angola sur fond d'accusations de violence, des allégations graves selon Kinshasa. L'Angola a démenti et évoque des retours volontaires. Aux Comores, de violents affrontements ont opposé aujourd'hui l'armée à des manifestants qui avaient érigé des barricades dans la capitale de l'île d'Anjouan, Moutsamoudou, pour protester contre la dérive jugée autoritaire du président Azali Assoumi. Le gouverneur de l'île, Abdou Salami Abdou, membre du parti d'opposition Jouva, a confirmé ces incidents. La situation politique est très tendue depuis plusieurs mois aux Comores, où le président Assoumani a fait interpeller récemment des dizaines de membres de l'opposition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité à l'international, le président Donald Trump a évoqué la possibilité que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu à Istanbul depuis 2 semaines, ait été tué par des éléments incontrôlables. Ce sont ses termes. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le roi d'Arabie Saoudite a fermement nié avoir connaissance de quoi que ce soit, a déclaré le président Donald Trump, ajoutant que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a quitté Washington pour Riyad. Il a laissé entendre que la disparition de Jamal Khashoggi pourrait être le fait d'éléments incontrôlables. « Je lui ai dit, c'est très important, le monde entier regarde. Il est important que toute la lumière soit faite », a poursuivi le président américain, évoquant sa conversation téléphonique avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud. L'Arabie Saoudite dément toute implication dans la disparition du journaliste critique du prince héritier, Mohamed Ben Salman, qui vivait en exil aux États-Unis. Jamal Khashoggi a disparu le 2 octobre après s'être rendu au consulat saoudien à Istanbul. La Turquie affirme qu'il a été assassiné par des agents saoudiens. Ce lundi, les autorités turques ont été autorisées à fouiller le consulat saoudien 2 semaines après la disparition de Jamal Khashoggi.
Aux États-Unis, la sénatrice américaine Elizabeth Warren, candidate démocrate pressentie pour la présidentielle de 2020, a publié un test ADN prouvant ses lointaines origines amérindiennes. En juillet dernier, le président Donald Trump, qui l'appelle régulièrement Pocahontas, du titre d'un dessin animé de Walt Disney, le président Trump avait indiqué qu'il donnerait $1 million à une ONG si la sénatrice prouvait qu'elle était bien indienne. Près d'une semaine après le passage de l'ouragan Michael, le couple présidentiel Donald et Melania Trump se sont rendus en Floride et en Géorgie. La tempête a durement touché ces deux États du sud du pays où des milliers d'habitants tentent de survivre sans eau courante ni électricité. En France, au moins 13 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de pluies violentes et de graves inondations dans le sud du pays. La crue des eaux a atteint un niveau sans précédent depuis 1891, provoquant des dégâts importants. Et puis en Allemagne, la police a déclaré ce soir ne pas exclure la piste d'un attentat terroriste à la suite de la prise d'otage survenue dans la gare de Cologne qui a fait 3 blessés en plus de l'assaillant. Selon la police, l'homme s'est réclamé du groupe État islamique au cours de la prise d'otage dans une pharmacie de la gare. Et puis pour finir ce journal, je peux également ajouter qu'en Angola, le président João Lourenço s'est réjoui aujourd'hui des résultats obtenus sur le front de la lutte contre la corruption lors de son discours ouvrant la nouvelle session parlementaire. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2017, Monsieur Lourenço a lancé une purge dans l'administration et les entreprises publiques qui a visé les proches de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le groupe Dangote Cement a lancé les travaux de construction d'une cimenterie à Keita, près de Taoua, dans l'ouest du Niger. Le coût est de 180 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 26 mois et comprennent également la construction d'une centrale thermique à charbon de 100 MW. L'usine aura une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes. La nouvelle production permettra de faire baisser le prix du ciment. Dangote Cement Niger SA va aussi mener des recherches de charbon et substances connexes sur 4 permis dans les régions d'Agadez et de Taoua. Cette société s'engage à investir dans les 3 prochaines années 2 millions de dollars sur chacun des permis et à financer également des infrastructures collectives à hauteur de 50 000 dollars par an pour chacune des zones abritant les permis. Les pays d'Afrique de l'Est ont emprunté 29,4 milliards de dollars à la Chine ces 10 dernières années. C'est pour le développement des secteurs du transport, de la communication, de la fabrication et de l'énergie. Aux États-Unis, l'enseigne Sears, inventrice de la vente par correspondance, est en faillite. Créée en 1893, elle est devenue la première chaîne de magasins de l'après-guerre, faisant son entrée en 1924 dans le très strict Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street. Depuis 2011, Sears a perdu environ 11 milliards de dollars et les rayons sont à moitié vides, malgré des promotions géantes. Il y a une décennie, l'entreprise employait un peu plus de 300 000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus que 68 000 personnes.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Nouvelle journée de la Ligue des Nations en Europe.
Oui, c'est une grosse surprise pour le moment à la mi-temps. L'Angleterre qui mène 3-0 face à l'Espagne. Match nul 0-0 entre la Suisse et l'Islande. Même score entre la Finlande et la Grèce, ainsi que la Biélorussie et la Moldavie. Pour le moment à la mi-temps, la Bosnie-Herzégovine mène 1-0 face à l'Irlande du Nord. Un but partout entre l'Estonie et la Hongrie. Et le Luxembourg qui mène 1-0 devant San Marin.
Et demain, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 sur le continent africain.
À cette occasion, on pourrait connaître les premiers qualifiés pour la phase finale qui aura lieu l'été prochain, en principe au Cameroun. Dans le groupe A, si le Sénégal gagne au Soudan et que Madagascar bat la Guinée équatoriale, Sénégalais et Malgaches auront 10 points chacun et seront certains de finir aux deux premières places du groupe. Dans le groupe B, une victoire des Camerounais au Malawi couplée à un succès des Marocains aux Comores mettrait le Maroc sur la voie royale vers la CAN 2019. Le Mali peut compter 10 points en cas de victoire au Burundi dans le groupe C. Dans le groupe D, l'Algérie est la seule équipe à pouvoir s'assurer la première place de son groupe dès cette 4e journée. Pour cela, les Algériens doivent battre le Bénin et compter sur un match nul entre Gambiens et Togolais. Dans le groupe E, les Sud-Africains aux Seychelles et les Nigériens face à la Libye peuvent conforter leur avance au classement. Dans le groupe F, c'est le grand flou en raison bien évidemment des matchs annulés entre la Sierra Leone et le Ghana. Dans le groupe G, si les Zimbabwéens battent les Léopards de la RDC et que les Diables Rouges de Brazzaville perdent au Liberia, les Warriors auront un pied et demi en phase finale de la CAN. Dans le groupe H, la Guinée sera certaine de finir parmi les deux premiers si elle gagne au Rwanda et que les Centrafricains ne battent pas les Ivoiriens. Dans le groupe I, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie sont à égalité de points, 6 chacun. La Tunisie est en position idéale grâce à son sans-faute dans le groupe J. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau a pris une option sur la qualification en battant la Zambie, mais rien ne sera fait à l'issue de cette 4e journée. Dans le groupe L, un succès au Lesotho ne suffira pas au bonheur des Ougandais, sauf si le Cap-Vert gagne en Tanzanie.
La saison NBA repart ce soir sur le continent nord-américain.
Et oui, c'est reparti. Golden State qui affronte Oklahoma et Boston qui jouera contre Philadelphie ce lundi soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales ont été marquées par de nombreux incidents violents et contestations des résultats. Plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Grand Bassam, près d'Abidjan. Les habitants réclamaient la proclamation des résultats. Eric Manirakiza a joint à Abidjan le président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la paix, Julien Fernangoz.
C'est vrai qu'il y a eu des morts, un à Lakota, deux à l'intérieur du pays, et puis deux à Touba, dans la zone Séguéla, pardon, et puis un autre tout récemment à Bobo. Et il y a eu aussi des actions violentes qui ont été enregistrées dans plusieurs localités. Pourquoi tout cela? Eh bien parce que la Côte d'Ivoire est toujours un peu dans cette atmosphère surchauffée qui avait prévalu en 2010-2011 et qui a conduit à la guerre post-électorale. On constate, hélas, que les institutions continuent d'être fragiles. Beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile ont réclamé la réforme de la CEI avant les élections locales et régionales. Eh bien, on avait souhaité que cette réforme se fasse avant. Donc, de ce point de vue, la Côte d'Ivoire continue donc d'être un grand malade, une nation sujette à beaucoup de polémiques lorsqu'il s'agit d'élections. Et malheureusement, rien ne change.
La commission électorale n'a pas encore donné tous les résultats. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des explications?
Le pays est vaste. Les moyens de collecte des données et de remontée de l'information ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Et puis, autant sur les réseaux sociaux, quelques posts publiés permettent d'avoir tout de suite une idée de ce qui se passe ici et là. Autant la vérification des vrais résultats à partir de procès-verbaux des dépouillements signés par les différents partis, autant cela est un peu lent et difficile à cause des problèmes d'acheminement. Mais l'acheminement seul ne suffit pas aussi pour justifier cela quand on voit le cas d'Abidjan où ça aurait dû être une élection plus exemplaire. Abidjan connaît aussi ses soubresauts avec des cas de controverses d'abord à Port-Boué où les réseaux sociaux avaient donné des résultats en faveur d'un candidat, et puis ensuite, finalement, ce candidat n'a pas été celui qui a été proclamé officiellement. Ensuite, à Boboga, les réseaux sociaux avaient aussi fait la même chose.
Quel est l'enjeu de ces élections régionales et municipales qui agitent autant les électeurs?
Il y a quand même la puissance financière que représente, enfin, la manne financière importante pour les partis, que représentent les bastions qu'ils prennent. La mairie de Port-Boué, selon des publications récentes, elle pèse 9 milliards de budget par an. Le plateau n'est pas très loin de là, autour de peut-être 7-8 milliards. Crodi, autour de 8-9 milliards. C'est des enjeux importants en termes de positionnement, en termes de leadership, en termes de poids électoral et en même temps des ressources financières importantes gérées. L'enjeu, c'est la préparation globale par rapport à 2020, se peser, voir ce que ça peut donner par rapport à 2020.
C'était Julien Fernangoz, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la paix. Nous l'avons joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La Gambie lance aujourd'hui sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation, l'un des principaux engagements du président Adama Barrow après sa victoire électorale sur Yahya Jammeh. Pour une réaction, Morgan Guiriec a joint Martha Colomea, chargée de campagne sur les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Amnesty International.
Pour Amnesty International, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un premier pas pour atteindre de la justice, de la vérité et dans quelques sens aussi de la réparation. C'est important parce que c'est un processus qui a été géré pour le gouvernement de la Gambie et aussi pour la société civile et pour la population en général. Ça va être important de documenter toutes les violations des droits de l'homme.
Qu'attend Amnesty International concrètement de cette commission?
Pour Amnesty International, cette procédure, ce n'est pas incompatible avec les processus judiciaires. Cette commission se soumet pour connaître la vérité et ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que les victimes ont demandé. Elles ont besoin de savoir, ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé. En même temps, il faut qu'il y ait de la justice. C'est pour ça que toutes les procédures judiciaires mondiale de tous les crimes qui ont eu lieu durant ces 22 années, c'est important qu'il y ait les enquêtes criminelles et que tous ces gens qui sont coupables vont à la justice.
Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des exactions qui ont été commises sous le régime de Yahya Jammeh?
On parle de 22 ans de dictature, on parle de la torture, on parle de disparitions, on parle de détentions arbitraires, on parle de violations et d'abus sexuels aux femmes. Alors, c'est très important que toutes ces violations soient documentées, que franchement tout le monde puisse savoir la réalité et la dimension des violations des droits de l'homme pendant ces années.
Mais vous pensez que aujourd'hui la Gambie a les moyens juridiques et institutionnels de traduire les coupables en justice?
La commission a un rôle de documenter, de voir ce qui s'est passé, d'écouter les victimes. Et de l'autre côté, on a les procédures judiciaires. On croit que c'est important, avant que la Gambie commence quelle procédure judiciaire, que les systèmes qu'il y a soient prêts. Parce que c'est important aussi de demander que toutes les personnes qui vont être jugées vont avoir un judice qui soit juste. Alors, si la Gambie n'a pas cette capacité, c'est important de la trouver dans la communauté internationale.
C'était Martha Colomea, chargée de campagne sur les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle travaille pour Amnesty International.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Aujourd'hui, 15 octobre, le Burkina Faso commémore le 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la Révolution. La construction d'un mémorial est en cours pour rendre hommage au capitaine assassiné le 15 octobre 1987. La pose symbolique de la première pierre de ce monument a eu lieu aujourd'hui même à Ouagadougou. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, c'est en ces lieux que l'ancien président, père de la révolution burkinabé, a été assassiné le 15 octobre 1987. C'est au même endroit qu'on veut ériger un mémorial pour le capitaine Sankara. Ce lundi a eu lieu la pose de la première pierre de la stèle sur laquelle doit reposer la statue géante du président Thomas Sankara et les bustes de ses 12 compagnons assassinés. Le colonel Bernard Sanou est le président du comité international mémorial Thomas Sankara.
C'est cette visibilité-là que nous avons voulu donner à ce projet-là et au site qui a été octroyé généreusement par le gouvernement burkinabé pour la réalisation de cette œuvre-là. Il faut trouver un début. Les questions fusent à gauche et à droite. Ah, c'est à quand la construction? Vous savez, ce genre de travail technique de réalisation prend du temps. L'occasion du mois du 31e anniversaire nous a été donnée pour poser la première pierre de la stèle sur laquelle va reposer la statue géante du président Thomas Sankara et le buste de Thomas de Sédou et Kamara.
Cette statue de Thomas Sankara qui sera érigée est l'œuvre de plusieurs sculpteurs burkinabés. Jean-Luc Bambara, porte-parole des artistes, explique ce que sera l'œuvre.
Le monument en hommage à Thomas Sankara est symbolisé tout simplement par une statue géante de 5 mètres en ronde bosse. C'est une statue où on peut tourner autour. Elle sera en bronze patiné, réalisée à partir de la technique de la cire perdue. La statue sera montée sur un socle en béton d'une hauteur de 3 mètres. La statue de Thomas Sankara mesure 5 mètres. Le béton sur lequel il sera installé aura une hauteur de 3 mètres. Ce serait un socle en forme pyramidale à 4 faces.
Le gouvernement burkinabé soutient le projet, car Thomas Sankara demeure une icône pour la jeunesse africaine. Abdoulkarim Sango, ministre de la Culture.
C'est un moment plein d'émotions que de se retrouver 31 ans après la disparition du leader de la révolution burkinabé sur ce site qui est resté longtemps fermé. Que Thomas Sankara continue de demeurer une source d'inspiration pour la jeunesse africaine.
Cette cérémonie est la matérialisation concrète du réveil du phénix, afin que tous ses héritiers à travers le monde aient un lieu de rencontre, d'inspiration, de l'idéal de Thomas Sankara, afin de continuer à oser inventer l'avenir, ont indiqué les membres du comité international mémorial Thomas Sankara. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, le gaz butane qui se substitue aux bois de chauffe se fait de plus en plus rare dans les points de vente. Une situation qui fait suite à un malentendu entre le gouvernement et des Chinois en charge de l'exploitation de la raffinerie de N'Djamena au sujet de la gestion de cette raffinerie. Le point avec André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Cette situation est une conséquence de l'application de l'accord signé en 2012 entre le gouvernement tchadien et la société chinoise en septembre dernier. Le directeur général adjoint de cette raffinerie, Seyd Idriss Déby, sur instruction du ministre du Pétrole, aurait tenté d'appliquer le texte en responsabilisant des personnes non qualifiées au moment où son directeur général était en congé. Mécontents, les techniciens chinois ont arrêté la production pendant plusieurs jours. Pour le ministre du Pétrole, Boukhar Michel, les deux parties ont trouvé déjà la solution à leurs différends.
Après plusieurs négociations, nous sommes arrivés aujourd'hui à dire à la population que le problème est résolu. On va reprendre même avec la formation double cabine, un chinois, un tchadien au niveau de chaque poste. Vous avez vu, c'est le chargement de GPL qui est en train d'être fait. C'est pour répondre aux besoins de la population.
Répondre aux besoins de la population, c'est une obligation pour un État responsable. Mais cette assurance semble être une déclaration politique, alors que la structure des prix du gaz montre bien que les consommateurs tchadiens sont les plus asphyxiés par le prix de l'aval pétrolier, car toutes les taxes, y compris le stockage de sécurité, qui d'ailleurs n'existe pas, sont comprises dans le prix de recharge. Quelques consommateurs expriment au micro de VOA Afrique leur désarroi.
S'il n'y a pas l'argent comme quoi, on nous laisse le gaz pour qu'on peut nous préparer à manger. Ça fait aujourd'hui 3 jours que je n'ai pas mangé.
On empêche que le bois n'arrive en N'Djamena. Mais pourquoi est-ce que les bouteilles de gaz maintenant ne sont pas bien remplies?
Nous utilisons le fagot qui est interdit. Après le fagot, c'est le charbon. Aujourd'hui, c'est le tour du gaz qui est pratiquement invisible dans les différents points de vente. Pour le moment, nous ne savons quoi faire et où aller.
Pour le président du syndicat des grossistes et revendeurs de gaz, Randa Bongo, les consommateurs ne vont retrouver le sourire que lorsque le gap créé par la rupture de production pendant 12 jours sera comblé.
En N'Djamena, il y a une estimation d'à peu près 20 tonnes de gaz par jour. Mais maintenant, la raffinerie ne met à la disposition que 14 tonnes. Donc, il y a un déficit de 6 tonnes par jour, puisque la raffinerie ne produit pas encore jusqu'aujourd'hui. C'est sur le stock qui était resté là qu'ils sont en train de livrer aux marketeurs.
Selon des sources proches de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, il faut moderniser le secteur en installant les dépôts stratégiques et sécuritaires pour pallier la pénurie dans les jours à venir. Il faut aussi combattre les criminels économiques qui pratiquent le système de transvasement des bouteilles de gaz, indique la même source. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Thomas Blondet. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite, le RM Show présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.